Terminons notre parcours avec Abraham, même si j'espère que ça sera surtout un début pour chacun de vous. Et avec le sommet de ce parcours que l'on pourrait résumer ainsi, aimer c'est tout donner et se donner soi-même, l'offrande d'Abraham. Nous allons voir notamment le chapitre 22 avec ce texte fameux de l'offrande, du sacrifice d'Abraham. Juste avant d'entrer dans le commentaire de ces passages, juste un petit mot pour vous dire que on a vu quelques textes qui sont parmi les plus importants. Il y en a qu'on a vu un peu plus longuement, d'autres qu'on a survolés. Il y a aussi beaucoup de passages de ce cycle d'Abraham que l'on n'a pas lu, qu'on a laissé de côté. Je vous invite à les lire. Vous avez peut-être réalisé en faisant ce parcours qu'il y avait parfois des textes qui semblent obscurs lorsqu'on les lit un peu tout seul, et puis à travers les quelques clés que vous avez entendues, quelque chose qui était obscur, voire peut-être même parfois qui pouvait sembler scandaleux, finalement se révélait être un texte assez puissant qui nous faisait sortir de nos petites idées conventionnelles sur Dieu ou sur nous-mêmes et qui nous permettait vraiment d'aller en profondeur et d'aller plus loin. Je voulais vous dire que la Bible fonctionne ainsi, et notamment l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est vraiment un lieu qui nous fait parler, qui nous fait avancer. Il y a beaucoup de textes difficiles qu'on ne comprend pas tout de suite, et en même temps, eh bien, à force de les lire, puis peut-être à force de les partager, de poser des questions, ces textes nous transforment, et souvent un texte qui, à première lecture, nous semblait un peu pauvre et petit, ou même un peu scandaleux, devient tout d'un coup un texte qui nous fait aller beaucoup plus loin, qui nous fait grandir. Les pères de l'Église disent « L'Écriture grandit avec celui qui la lit ». Et j'aimerais bien peut-être que vous puissiez retenir de ce parcours aussi, c'est qu'en lisant l'Écriture, en se coltinant l'Écriture, même quand c'est difficile, eh bien la parole de Dieu grandit en nous et elle nous fait avancer. Notre foi, c'est pas juste des paroles qui seraient reçues d'en haut et qu'on devrait appliquer comme des règles, pas du tout. En fait, la parole de Dieu nous oblige à parler, nous oblige à chercher, nous oblige à nous engager. Elle nous fait grandir et c'est ainsi qu'elle nous transforme pour que nous-mêmes nous devenions aussi des paroles de Dieu pour ceux qui nous entourent. Et c'est ce qu'Abraham est aujourd'hui pour nous. Il est une parole de Dieu. Vous voyez, même si à la base, il pouvait sembler un peu impropre à devenir une parole de Dieu. Eh bien, nous allons voir dans cette dernière étape comment Dieu a fini par faire d'Abraham vraiment un exemple de don de lui-même, comment il l'a amené à un accomplissement, à une perfection, voilà, à un sommet, et comment Dieu veut le faire pour nous. Alors, on va d'abord rapidement évoquer le chapitre 21, qui est quand même important, puisque c'est la naissance d'Isaac. Vous voyez, enfin, la promesse commence à se réaliser de manière un peu visible, puisque Dieu a promis une descendance innombrable à Isaac, à travers sa propre chair. Pour l'instant, il n'avait même pas un enfant. Et au chapitre 21, il nous est dit « Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham, déjà vieux, au temps que Dieu lui avait dit. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac. Et Sarah dit, « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront. » Et elle dit aussi, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse ?» Et dans l'étymologie du mot Isaac, il y a vraiment la mention du rire. Alors, juste un petit commentaire sur ce passage. Tout d'abord, ce passage nous dit que Dieu donne, et ça c'est important, c'est Dieu qui donne. Voilà, il a fallu de la patience, il a fallu marcher longuement, il a fallu sortir des ornières ou des mesures que Abraham avait voulu imposer à Dieu pour finalement devenir capable d'accueillir le fruit de la promesse. Premier point. Deuxième point aussi, c'est assez beau de voir que la promesse va advenir au moment, on l'a vu la dernière fois, où Abraham est capable de se décentrer de lui-même, de se préoccuper de Dieu et des autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que peut-être en n'étant pas auto-centré, eh bien, la promesse de Dieu va pouvoir advenir dans son couple et que Sarah va pouvoir donner naissance à Isaac. L'autre chose aussi que je trouve assez forte, c'est cette étymologie avec cette question de l'humour et du rire qui est liée à cette naissance. Voilà, en fait, il y a quelque chose, je trouve, d'assez libérant, qu'on retrouve peut-être un peu parfois dans l'humour juif. Vous savez que le peuple d'Israël a développé quand même un humour assez fort, et je pense que c'est une manière, l'humour, de pas s'y croire. En fait, quand on vit avec Dieu, quand on est témoin de la grâce de Dieu, quand on devient familier de Dieu, voilà, c'est bien de pouvoir prendre un peu parfois de distance, et le rire, l'humour est libérant. En fait, qui suis-je pour que Dieu passe à travers moi ? Et pourtant, il passe à travers moi. Je vois, comme prêtre, je suis témoin quand même parfois de choses incroyables. Et en fait, eh bien, avoir une saine distance, avoir un peu d'humour, ne pas s'y croire, c'est important. Et c'est beau de voir qu'au moment où ils accueillent le don de Dieu, eh bien, finalement, Sarah l'accueille avec de l'humour. Parce que sinon, il y a un risque, et on va le voir, hein, qui est de continuer à mettre la main sur le don de Dieu. Par contre, c'est libérant. L'humour, la joie, le rire est libérant pour permettre vraiment, pour nous permettre d'accueillir de manière saine l'œuvre de Dieu. Voilà, le peuple d'Israël, qui est le plus petit peuple du monde, a été choisi par Dieu pour le porter aux autres. Et ça le fait bien rire, en fait, et heureusement, parce que sinon on est écrasé, en fait, par l'ampleur de la mission que Dieu nous confie. Par contre, si on est libre, si on a une saine distance avec soi-même, si on s'y croit pas, eh bien, on peut porter des choses extraordinaires, parce que, il y a cette manière de l'accueillir qui fait qu'on ne met pas la main dessus. Alors, il y a ensuite ce chapitre 22, qui est, pourrait-on dire, le sommet de la vie d'Abraham, qu'on appelle le sacrifice d'Abraham, que je vais lire et qui va terminer ce parcours. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit: « Abraham ». Il répondit: « Me voici ». Dieu dit: « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai ». Abraham se leva tôt, sella son âne et partit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs: « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous ». Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit: « Mon père ». Il répondit: « Me voici, mon fils ». Il reprit: « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit: « C'est Dieu qui verra pour l'agneau pour l'holocauste, mon fils ». Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel, disposa le bois, puis lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit: « Abraham, Abraham ! » Il répondit: « Me voici. » L'ange dit: « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé Vera, en sorte qu'on dit aujourd'hui: sur la montagne, Yahvé est vu. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit: je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu m'as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Alors voilà ce beau texte, qui est en même temps aussi plein un peu d'énigmes ou de profondeur, que l'on va un peu décrypter. Voilà, tout d'abord, hein, ce texte signe, j'allais dire, l'accomplissement du chemin qu'Abraham a fait avec Dieu, puisque à la fin de ce texte, hein, on nous dit que il y a que Abraham est vu par Dieu et que Abraham voit Dieu. C'est l'étymologie de la montagne sur laquelle va se passer ce sacrifice, hein, Moria, qui veut dire, hein, dans ce lieu Dieu est vu et Dieu voit. C'est-à-dire que Comme je l'avais dit un peu pour Agar, à ce moment-là, Abraham va entrer dans une communion profonde avec Dieu. Et que va-t-il se passer ? En fait, à travers cette épreuve, parce qu'on le sait dès le début, ça c'est un peu important, hein, on peut parfois avoir une lecture pas juste de ce texte en pensant que Dieu veut vraiment le sacrifice d'un enfant. Voilà. En fait, c'est une épreuve que Abraham vit. Une épreuve, c'est quelque chose qui va montrer ce que Abraham est devenu et aussi qui va montrer qui est véritablement Dieu. C'est pour cela qu'à la fin de ce récit, on nous dit « Sur la montagne, Dieu est vu », c'est-à-dire que ce texte nous permet de voir vraiment qu'est-ce que Dieu demande vraiment, qui il est. Et puis aussi sur la montagne, Dieu voit parce qu'il voit ce qu'Abraham est devenu. À une épreuve, c'est ce qui révèle. Ce qui révèle, voilà, quand je passe l'épreuve du bac, ça révèle si j'ai bien préparé ou pas. Enfin, ça révèle à là où j'en suis. Donc on sait que c'est une épreuve. Et en fait, cette épreuve va montrer que Abraham est entré, a accueilli le don de Dieu, Isaac, d'une manière qui fait qu'il n'a pas mis la main sur ce don, mais qu'il est dans une attitude où il va offrir sa paternité, où il va être capable de redonner ce que Dieu lui a donné, non pas pour le tuer ou pour la mort, mais de le redonner, voilà, de sorte à ce qu'il soit lui aussi dans la même attitude qui est celle de Dieu, qui est une attitude d'offrande, de don. Deux choses qui nous montrent cela. Première chose, c'est que à la fin de l'histoire, quand l'ange arrête Abraham, il lui dit, en fait, bien sûr, ne sacrifie pas ton fils et prends un bélier que tu vas offrir à la place. Il lui dit pas prends un agneau, car il lui demande pas de. Vous vous rappelez, Isaac avait dit mais où est l'agneau pour le sacrifice ? L'agneau c'est un petit, c'est un enfant. Et en fait, quand Dieu arrête Abraham, il lui dit, prends un bélier. C'est-à-dire, en fait, ce que tu dois offrir, c'est pas ton fils, c'est ta paternité. Un bélier, c'est un père. Tu dois offrir ta paternité. Et c'est ce qu'Abraham vit dans ce passage. En fait, il s'offre lui-même. Il offre sa paternité. Il offre ce que Dieu a produit en lui, qui est ce fils. Voilà. Eh bien, ce fils est l'œuvre de tout ce cheminement avec Dieu et il s'offre à travers ce cheminement que Dieu lui a fait vivre. Et dans une attitude où il n'a pas la main crispée sur le don, mais où voilà, il s'est laissé faire et il est capable de s'offrir. Il a une déprise de lui-même dans laquelle il est entré. Et puis, il y a un autre détail qui est très important, c'est que le nom de Dieu change au cours du récit. C'est-à-dire que on nous dit Dieu mit Abraham à l'épreuve, et à ce moment-là, quand Dieu parle à Abraham en lui disant offre ton fils en holocauste, en sacrifice sur la montagne, le nom de Dieu, le mot qui est utilisé pour parler de Dieu en hébreu, c'est Elohim, qui est le nom commun de Dieu. On pourrait dire la divinité, quoi, la manière dont tout le monde dit Dieu, Dieu. Et au moment où Abraham est arrêté dans son geste, à ce moment-là, c'est à ce moment-là dans le récit qu'arrive, et d'ailleurs j'ai fait en sorte de le dire alors que je le dis pas habituellement, je vous expliquerai pourquoi, c'est à ce moment-là qu'arrive le nom Yahvé, c'est-à-dire le nom propre que Dieu a révélé au peuple d'Israël lorsqu'il s'est révélé à Moïse. Et ça, tout ça pour nous dire que dans ce passage aussi, l'image que Abraham pouvait avoir de Dieu et que nous pouvons avoir de Dieu est transformée. Cette image qui est parfois culpabilisante, où on pense que Dieu va nous demander un sacrifice, qu'il va nous amputer, que si je le suis, il va me demander quelque chose que j'ai pas envie de faire et qui sera difficile, etc. Voilà, cette image qui conduisait d'ailleurs pas mal de tribus et de clans de l'époque à sacrifier réellement, parfois par peur, ou pour s'agréer les faveurs d'un Dieu, à sacrifier leur enfant de manière humaine, enfin, cette image de Dieu est fausse. En fait, ce que Dieu... Et c'est pour ça que au moment où arrive le nom révélé à Moïse, révélé au peuple d'Israël, Yahvé, c'est ce moment-là où en fait cette image est corrigée, où on comprend que le sacrifice que Abraham doit vivre, c'est pas celui de vivre une forme de renoncement mortifère ou qui donne la mort, mais c'est vraiment l'offrande de sa paternité et pour que la vie puisse jaillir, puisse continuer et puisse se propager. Voilà. Donc, ce texte est aussi un texte qui nous apprend à voir vraiment dans l'appel de Dieu, dans l'offrande que Dieu nous demande, combien celle-ci n'est pas une offrande pour nous enlever des choses, mais une offrande pour nous rendre de plus en plus capables d'accueillir le don de Dieu, de nous donner nous-mêmes et de tout donner comme Dieu le fait. et de manière non pas mortifère, mais de manière à ce que la vie, l'alliance et la promesse de Dieu puissent s'accomplir. Et ce qui est très beau à la fin de ce récit aussi, c'est que Dieu redonne à Abraham sa mission et sa vocation, mais en lui disant quelque chose qui n'avait jamais été dit avant, « Parce que tu m'as obéi, parce que tu m'as obéi, alors en toi seront bénis tous les clans de la terre. » Vous vous rappelez que toute l'histoire d'Abraham nous a permis de comprendre que cette promesse de Dieu, elle allait advenir non pas à cause des capacités d'Abraham, mais à cause de Dieu, à cause de son engagement à lui. Eh bien, à la fin de l'histoire, en fait, Dieu a rendu capable Abraham de devenir un véritable partenaire et de devenir la véritable raison pour laquelle la promesse va s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu a transformé Abraham de sorte à ce que Abraham puisse vraiment porter du fruit lui-même. Voilà. Parce que il a marché avec Dieu et il s'est fait transformer progressivement par Dieu. Voilà. Alors il y aura encore plein de choses à dire, mais voilà, ce moment marque l'accomplissement de ce chemin où pas à pas Abraham a pu être façonné par Dieu pour pouvoir véritablement se donner totalement, donner sa paternité de manière juste et dans une connaissance de Dieu qui est une connaissance libérante et qui va permettre à cette promesse eh bien, de grandir ensuite dans la suite de la Bible. De ce petit parcours, voilà, puisque c'est la fin, on retiendra quelques points hein, pour cette marche vers la sainteté avec réalisme, sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Alors, voici quelques points que vous pouvez vous retenir. Tout d'abord, se rappeler l'appel, sa beauté, son immensité qui correspond vraiment à ce qui est inscrit dans notre cœur. Il y a plus, voilà, il y a un grand désir en nous d'être une bénédiction pour les autres et surtout ne pas y renoncer. Deuxième point, la clé pour pouvoir faire en sorte que ce grand désir s'accomplisse, c'est de marcher et de ne pas s'installer. Et de planter aussi à chaque fois un autel ou quelque chose qui nous rappelle les passages de Dieu dans notre vie. Mais avance, ne t'arrête pas. Persévérer. Autre chose que l'on peut retenir de ce parcours, hein, c'est que c'est incarné. Il y a des pièges, mais on apprend progressivement à se connaître. On essaye. Et aussi, nos échecs, nos impasses, les lieux douloureux peuvent être ces lieux où Dieu va mettre sa grâce et va nous donner une fécondité progressivement qui nous dépasse et qu'évidemment on ne voit pas à ce moment-là. Autre point important, hein, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit. Voilà, et progressivement, voilà, en entrant dans la relation avec lui, en entrant dans son humanité, il va me transformer de l'intérieur, notamment à partir du moment hein, où je vis régulièrement des moments de qualité avec lui. Et puis, dernière chose, celle que je veux retenir, hein, la clé, c'est la confiance. Je voudrais terminer par une petite histoire. Pourquoi est-ce que Abraham a fini par réussir? Parce qu'il a eu confiance. Il ne s'est jamais arrêté. La clé, c'est la confiance. On raconte cette petite histoire, je ne sais pas si aussi elle est vraie, c'est qu'un jour, Sœur Faustine a une apparition de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sœur Faustine dit à Sainte Thérèse, est-ce que je vais devenir sainte? Sainte Thérèse lui dit, oui, tu deviendras sainte. Est-ce que je vais devenir une sainte canonisée? Thérèse lui dit, oui, tu deviendras une sainte canonisée, mais il te manque quelque chose. Alors Faustine lui dit, mais qu'est-ce qui me manque? Thérèse lui dit, la confiance. Parce que si tu avais confiance, tu ne m'aurais pas posé cette question. Voilà, c'est par la confiance voilà, que nous pouvons vraiment avancer dans cette marche vers la sainteté en croyant que Dieu fera son œuvre en nous. Quelques dernières questions pour nourrir vos partages ou pour nourrir votre réflexion. Première question, qu'est-ce que Dieu me permet d'offrir de moi-même pour être un véritable partenaire avec lui? Qu'est-ce que Dieu me permet d'offrir au jour d'aujourd'hui de moi-même pour être un véritable partenaire? Reconnaître que ça, j'arrive à l'offrir, voilà, et s'en réjouir. Deuxième question, voilà, quels sont peut-être les points bloquants, les peurs ou voilà, les choses que je n'arrive pas à offrir parce que derrière, je n'en suis pas capable. Je pense que, voilà, ça va être difficile ou que c'est un renoncement que je ne suis pas capable de faire. En fait, notez ces choses-là et dites simplement à Dieu, voilà, je sais, Dieu, que tu n'enlèves rien et que tu donnes tout et que si un jour il faut que je donne cela, tu vas m'en rendre capable. Et je te dis simplement que je veux te faire confiance et que si tu m'emmènes dans cette direction, il faut que ça devienne mon plus grand désir. C'est libérant de dire cela par rapport, vous voyez, à toutes ces peurs qui nous habitent en se disant « mais si je fais ça, Dieu va me demander telle chose, de toute façon, j'ai pas envie de changer, etc. » Eh bien, pouvoir le nommer et puis dire, au moins donner à Dieu la possibilité de me transformer et que ça devienne mon plus grand désir d'aller dans cette direction si je ne suis pas encore capable de le faire ou de me donner dans cette direction. Voilà, comment je me débarrasse de toute idée culpabilisante de Dieu sur ces sujets pour faire un pas de confiance et lui dire que cela devienne mon plus grand désir. Tu n'enlèves rien, tu donnes tout. Amen. Et puis, eh bien là, je ne vous dis pas à bientôt. Je vous dis bonne route et prions les uns pour les autres. Petit bonus, chose promise, chose due. Je vous ai dit dans le corps de l'enseignement que je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'avais prononcé exceptionnellement le mot « Yahvé ». Je l'ai prononcé parce que ça permettait de comprendre la logique du texte. En effet, ordinairement, notamment les Juifs, ne prononcent jamais ce mot-là, qui est le nom que Dieu a révélé à Moïse. Il apparaît dans la Bible, il est marqué à travers les quatre consonnes, qu'on appelle ça le tétragramme, quatre consonnes, mais qui sont habituellement jamais prononcées par les Juifs. Et là, je les ai prononcées en mettant les voyelles Yahvé, de sorte à ce que ça sonne comme Yahvé. Je l'ai prononcées parce que ça permettait de comprendre le texte. Mais pourquoi est-ce que les Juifs ne le prononcent pas habituellement ? En fait, habituellement, lorsqu'ils tombent sur ce nom donné à Dieu, révélé à Moïse, ils vont remplacer par le Seigneur. Alors qu'il n'y a pas marqué le Seigneur, il y a marqué Yahvé, ils vont dire le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est une manière, au moment où ils tombent sur ce mot dans la lecture, de se dire quel privilège nous avons de connaître Dieu, d'avoir reçu la révélation de ce nom, ce nom qui grosso modo veut dire en fait « je suis avec vous, je suis entré dans votre histoire, je me révèle en marchant avec vous ». C'est ça le sens de ce nom-là, qui a d'ailleurs plein de significations très riches. Mais en fait, les Juifs ne le prononcent pas pour dire en fait « on ne va pas mettre la main sur le nom de Dieu ». On ne met pas la main sur le nom de Dieu. Il y a cet infini respect. Nous avons reçu quelque chose d'immense. Et le fait que dans la lecture, quand je vois ces quatre consonnes, je ne les prononce pas et je remplace par le Seigneur, eh bien, ça m'aide à entrer dans cette gratitude et dans ce respect pour tout ce que Dieu a révélé, dans cette admiration de son œuvre. Et nous, les chrétiens, on fait la même chose. Dans la liturgie, à la messe, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, très souvent, il y a le mot « Yahvé » derrière, et pourtant, dans la Bible, c'est écrit « le Seigneur », pour ne pas le prononcer, pour la même raison. Il y a une seule fois dans l'année où il est prononcé, c'est justement dans le passage où Dieu révèle ce nom spécifique à Moïse, parce que là, si on ne le mettait pas, on ne comprendrait pas du tout le passage. Mais sinon, dans tous les autres textes de l'année, en fait, on ne le prononce pas. Ça veut dire que vous, par contre, dans votre Bible, comme la Bible de Jérusalem, la Tob ou d'autres Bibles, vous allez tomber sur ce mot-là, Yahvé. Ça peut être bien. En tout cas, moi, je sais que ça choque mes oreilles. Quand quelqu'un lit la Bible et dit Yahvé, ça me choque. Voilà, parce que peut-être que j'ai pris cette habitude. Mais ça peut être bien, justement, de prendre l'habitude de remplacer et de ne pas dire Yahvé, de dire le Seigneur quand vous faites la lecture et en vous disant quelle chance j'ai de connaître Dieu et qu'il ait révélé son nom à Moïse et à moi par la même occasion. Bye bye.